RFI Actualité.
Florent Guignard.
Sous la bannière olympique, les deux Corées se rapprochent. Elles défileront ensemble demain lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. Une rencontre entre le président sud-coréen et la sœur de Kim Jong-un est même annoncée samedi. Bonjour Anthony Dufour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez écrit « Vivre la Corée », vous avez aussi réalisé un documentaire qui s'appelle « Le piège des Kim ». Alors, pendant longtemps, la Corée du Nord a laissé sans réponse l'invitation de Séoul pour participer à ces Jeux Olympiques, avant une volte-face au début de l'année. Qu'est-ce qui a motivé Kim Jong-un ?
C'est l'aspect, la tournure que prenait ses relations avec les États-Unis qui a un peu précipité les choses en début d'année. La pression américaine s'est faite très intense depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Les dernières sanctions, il y a trois jeux de sanctions qui ont été votés à l'ONU en 2017 avec des sanctions extrêmement dures qui privent de quasiment tout la Corée du Nord et même de pétrole. Donc, alors qu'il n'y a pas de ressources naturelles, il est devenu évident pour Kim Jong-un qu'il fallait sortir de son isolement. Et donc la première porte à pousser, à part la Chine et la Russie qui sont des alliés traditionnels de la Corée du Nord, c'est celle de la Corée du Sud. Dans toutes les grandes crises en Corée, dans la péninsule coréenne, on a vu le même mouvement, c'est-à-dire la Corée du Nord tenter de se rapprocher du Sud pour aller lui quémander un petit peu de subventions. Le bateau qui a amené les pom-pom girls nord-coréennes qui a accosté hier en Corée du Sud a par exemple déjà demandé du pétrole pour pouvoir repartir, il n'avait plus de pétrole. Donc on sent qu'il y a à la fois une tentative de charme, une manière de vouloir rompre l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, et puis tout simplement un moment où il faut essayer de réclamer quelques avantages pour survivre face aux sanctions.
Et de profiter aussi de l'exposition qu'offrent les Jeux Olympiques. Les Jeux, finalement, c'est un bon prétexte pour montrer des signes d'ouverture sans pour autant paraître reculé ou faire des concessions sur le fond.
Tout à fait. C'est un moment très important en termes d'image. C'est très important l'image pour les Nord-Coréens. Ils veulent, au-delà des conflits stratégiques, au-delà des problèmes de sécurité qui fait qu'ils ont développé leur programme nucléaire, la question du prestige, de la reconnaissance internationale est très importante pour eux. Et là, finalement, ils ont l'impression d'être la première attraction aux Jeux Olympiques. C'est très significatif ce qui est en train de se passer, parce que tout de même, c'est bien la première fois qu'on voit un membre de la famille Kim se rendre ainsi en Corée du Sud officiellement, être reçu samedi à la Maison Bleue, le siège du pouvoir sud-coréen où vit le président sud-coréen. Ce sont des choses absolument inédites. Il y a déjà eu des équipes intercoréennes, mais que cela se passe en Corée du Sud, c'est tout à fait nouveau.
Au-delà du symbole de cette rencontre, Anthony Dufour, qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce rendez-vous et de ce déjeuner à la présidence sud-coréenne?
Tout dépend là du poids politique qu'arrivera à prendre l'administration de Moon Jae-in, le président sud-coréen, dans les prochains mois. En clair, les problèmes de sécurité, le problème du programme nucléaire nord-coréen, il sera toujours là après les Jeux Olympiques. Il y a un moment de trêve, il y a un moment de fête, c'est très bien. Mais dans quelques semaines, il y aura des exercices militaires entre la Corée du Sud et l'Amérique. Ces exercices vont à nouveau déclencher des tensions. Il y aura peut-être un nouvel essai balistique de la part de la Corée du Nord. Et on est reparti dans le même cycle de provocations qu'on a connu l'année dernière, avec un danger beaucoup plus important, parce que on est face à un véritable chronomètre. La Corée du Nord est en train de produire énormément d'armes nucléaires, énormément de missiles balistiques. Jusque-là, les États-Unis se disaient, admettons qu'ils parviennent à se procurer un arsenal assez limité, nous aurons les moyens de les contrer. Mais les États-Unis peuvent-ils accepter une Corée du Nord avec 200, 300, 500 armes nucléaires? Probablement pas, et cette quantité, ils vont l'atteindre dans les prochains mois. Donc, quoi qu'il arrive, la crise va revenir autour de la scène, quelles que soient les conséquences de ces Jeux Olympiques. Et les États-Unis, essentiellement, seront face à un choix dans quelques mois. Faut-il attaquer de manière préemptive la Corée du Nord pour l'empêcher d'atteindre cet objectif nucléaire, ou faut-il accepter, après tout, que la Corée du Nord devienne, comme les autres, une puissance nucléaire?
Kim Jong-un, d'ailleurs, ce matin, a déclaré que la Corée du Nord était désormais une puissance militaire de classe mondiale. Comment vous interprétez le défilé militaire organisé par la Corée du Nord aujourd'hui, à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est une provocation?
C'est une grande tradition nord-coréenne. Les défilés militaires, ils en font très régulièrement. Ils ont quasiment construit le centre de Pyongyang uniquement pour pouvoir les accueillir. L'architecture et l'urbanisme est prévu pour accueillir ces grandes parades. Donc, il ne faut pas accorder trop de trop de symboles au fait que ce soit une parade militaire. D'ailleurs, elle était, semble-t-il, assez modeste par rapport aux grandes parades qu'ils font parfois. Peut-être là encore un effet du manque de pétrole. Donc c'est assez traditionnel, mais il est évident que le message que disent les Nord-Coréens, c'est qu'on veut bien se rapprocher de nos frères du Sud, on veut bien discuter avec tout le monde, mais vis-à-vis des États-Unis, nous allons garder la même attitude extrêmement ferme. Pas question de négocier notre programme nucléaire, pas question de négocier autre chose que la paix et la sécurité avec l'Amérique.
La Corée du Nord a d'ailleurs exclu toute rencontre avec des dirigeants américains lors de ces Jeux Olympiques en Corée du Sud. Pyongyang explique que cette participation à ces Jeux Olympiques, elle a seulement une dimension sportive et pas politique. Est-ce qu'il joue sur les mots et est-ce que ça existe au fond la diplomatie sportive ?
Ça existe probablement, mais ça reste de la politique, de la même manière que la diplomatie culturelle qui est en cours en même temps, parce que les sportifs, certes, sont déjà arrivés au village olympique tout à l'heure, dans une cérémonie d'ailleurs assez étonnante, mais ce soir même, il y a un concert d'une grande troupe de vedettes nord-coréennes, une troupe de pop musique, si vous voulez, assez originale, qui va donc se produire sur une scène à Gangnam, l'un des grands sites olympiques sud-coréens. Un petit indice, il y avait pour une place disponible 400 demandes de la part des sud-coréens, ce qui veut dire...
C'était gratuit, hein.
Oui, tout à fait, mais le tirage au sort a été très, très difficile. Donc ce qui montre qu'il y avait un grand engouement de la part des sud-coréens, et là encore, la volonté des nord-coréens, de faire le spectacle, de se mettre au centre du jeu, tout ça est politique, hein. Ils veulent dire au monde que nous ne sommes pas les agresseurs, nous sommes agressés par les États-Unis, nous, on veut faire la paix, on veut envoyer nos artistes, on veut envoyer nos sportifs, et on ne fait notre armement nucléaire que dans un seul but, un but défensif.
Merci Anthony Dufour, merci pour ces explications. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Vivre la Corée », vous avez aussi réalisé un documentaire « Le piège des Kim ».